L'Esprit Libre, avec Guillaume Durand, sur Radio Classique.
Voilà, Rachel Kahn, Hervé Gattegnaud. Hervé, vous connaissez bien les questions de sécurité. Cette infirmière qui a été tuée âgée de 38 ans par un homme qui avait déjà été eu un non-lieu pour irresponsabilité pénale en juin 2022 après avoir été mis en examen à Châlons-en-Champagne pour des faits de violence aggravée. Tout à l'heure, David parlait de l'accumulation des trois policiers morts dans un accident de voiture parce qu'ils sont confrontés par un homme qui était sous cannabis et qui avait un degré d'alcool trop important dans le sang. Alors, est-ce qu'on peut faire cette accumulation, avoir ce sentiment qu'il y a une sorte d'irresponsabilité qui s'installe dans le pays, ou est-ce que c'est accumuler des choses qui n'ont aucun rapport?
L'accumulation, elle existe. Objectivement, il y a une addition de faits de ce genre. Ça ne veut pas dire qu'on peut tous les interpréter de la même manière. Il y a l'acte d'un déséquilibré, mais qui s'en prend peu ou prou à ce que lui ressent comme des symboles. Et donc, évidemment que là, il y a une réflexion à avoir. Ça n'est pas la première fois que ça se produit. Il y avait eu, il y a quelques années, à Pau...
Ce qui est frappant, c'est quand même la multiplication de l'agression des médecins.
Oui, absolument. Les médecins, les infirmiers, on peut y mettre aussi les pompiers. C'est-à-dire des gens
qui... Parce que là, c'est pas une accumulation artificielle.
C'est une profession
qui est touchée, attaquée.
Et ce sont des gens qui viennent au secours des autres et qui se retrouvent eux-mêmes attaqués. Donc là, on a l'impression vraiment d'une société qui perd la boule, pour dire les choses. Après, s'agissant de l'accident dont ces malheureux policiers ont été victimes, là, pour le coup, c'est un accident. Alors, c'est un drame de la route de plus. On en a parlé il y a quelques mois avec l'affaire Pierre Palmade. Ouais. La consommation de stupéfiants est aujourd'hui la principale cause d'accidents mortels. Si on met à part la vitesse, la vitesse étant la première cause et de très loin, mais là il y a une addition de faits qui est absolument révoltante.
Et aussi de banditisme dans une ville que vous connaissez bien, qui est la vôtre, qui est Marseille, dans les quartiers nord où ça se multiplie, où des jeunes gens de 20 ans.
Il faudrait une émission entière pour en parler.
Et puis en plus c'est l'intérêt général aussi, c'est-à-dire que c'est des représentants de l'intérêt général, du service public. Et on peut aussi reparler de nos élus, évidemment. Samuel Paty, un professeur, donc l'institution, plus que l'institution, le service public, l'intérêt général qui est attaqué.
Question à tous les deux, on va y aller directement. Tout à l'heure, nous recevions cette chercheuse avec Renaud Blanc qui a des problèmes avec son livre sur les fréristes. Daniel Rondeau vous a précédé pour parler de Beyrouth avec à la fois, puisque son livre s'appelle Beyrouth sentimental, une passion pour la francophonie et cette ville formidable et un Liban exceptionnel qui est totalement dévasté, et puis le risque que ça se transforme justement en France et qu'il y ait une libanisation justement du pays. À toutes ces affaires, est-ce qu'elles sont ou pas liées à l'immigration? La grande question qui est posée aujourd'hui, c'est celle des quotas avec les propositions qui sont faites par les LR. Alors, est-ce que vous êtes l'un ou l'autre, ou un et l'autre, ou l'un et pas l'autre, ou les deux contre, hostile ou favorable à l'idée qu'à un moment le Parlement décide de quotas? Hervé.
Non, moi je ne suis pas hostile par principe à cette idée. Il faudrait évidemment rentrer dans beaucoup plus de détails pour en vérifier l'efficacité. Mais au fond, nous sommes confrontés à un problème démocratique avec l'immigration. Dans la plupart des pays européens, et notamment dans le nôtre, la population ressent de plus en plus mal l'afflux d'étrangers sur son sol. Et donc, il y a une question démocratique qui est posée à nos gouvernants. Ils sont obligés d'en prendre compte et d'apporter des réponses à ces questions. Pour l'instant... Incontestablement, on n'y arrive pas. Il y a eu 21 lois sur l'immigration en 21 ans. C'est dire à quel point...
Et un ministère de l'immigration et les polémiques autour du ministère de l'immigration, si vous suivez la présidence de Nicolas Sarkozy.
Oui, toujours. Donc, tout ce sujet est explosif et pour cette raison, on a le sentiment, et je crois que c'est malheureusement pas seulement un sentiment, qu'on n'avance pas beaucoup, on ne fait pas grand-chose. Donc, les quotas... Pourquoi pas, à condition de se mettre d'accord, une majorité au Parlement, pour l'instant il n'y en a pas, et même je dirais une majorité dans le pays, de se mettre d'accord sur le fait que la France est un pays qui a besoin d'immigration. Oui. Parce que les quotas n'ont de sens que pour inscrire dans le marbre, en quelque sorte, en le renouvelant chaque année, le besoin d'immigration d'un pays comme le nôtre, et non pas la nécessité d'arrêter l'immigration. Nous n'arrêterons ou pas l'immigration, parce que la marche
par définition, le quota n'arrête pas. Le quota jugule, le quota oriente.
Oui, mais justement, beaucoup de gens pensent beaucoup de gens pensent que le quota est au fond une frontière mathématique, c'est-à-dire qu'au-delà d'un certain nombre, on arrivera à arrêter le flux. Il faut partir du raisonnement exactement inverse, à mon sens. On n'arrivera pas à arrêter le flux. Donc, la nécessité qu'a un pays comme le nôtre, c'est d'intégrer le mieux possible des populations. Et donc, si on pouvait en partie choisir en amont les immigrés que nous sommes prêts à accueillir parce que nous pouvons les loger, nous pouvons mettre leurs enfants à l'école et nous pouvons leur trouver du travail, ce serait une bonne solution. Les modèles qui existent dans le monde ne sont pas totalement convaincants, il faut bien le dire.
Rachel, quota ou pas quota ?
Alors déjà, je voulais préciser trois petites choses. La première, c'est que on parle d'immigration, il faudrait parler des immigrations. C'est-à-dire qu'il y a différentes formes d'immigration. Pourquoi, comment, jusqu'où ? Celles qui sont circonscrites aux études, par exemple, celles qui sont légales, celles qui sont illégales. Ensuite, je suis assez triste, moi, que la gauche n'ait pas pris ce sujet. Ça fait 30 ans qu'on répète, voire 40 ans qu'on répète exactement les mêmes choses. C'est-à-dire, oui, l'immigration est positive pour le pays. En fait, la gauche est restée bloquée aussi sur son slogan de 2002, nous sommes tous des enfants d'immigrés, première, deuxième, troisième génération. Ce qui fait que lorsqu'on parle d'immigration, il y a une cristallisation sur ce mot, et finalement la gauche n'a pas travaillé.
Ça a été le rapport de Terra Nova à l'époque qui expliquait que la gauche ayant perdu le peuple, puisqu'il était passé du côté du Front National de l'époque, l'électorat de la gauche naturelle, ça devenait les immigrés, et c'est la raison pour laquelle effectivement dans ce domaine-là, et maintenant on a avec Mélenchon
l'idéologique
extrême, c'est-à-dire la créolisation totale de la société.
Mais c'est pas le mot créolisation, il se trompe quand il dit créolisation, parce que il emprunte à Édouard Glissant. Par ailleurs, je pense que justement, c'est précisément les enfants d'immigrés qui doivent peut-être parler de cette immigration. Moi, je suis petite fille, vous savez, de la Shoah, mes grands-parents polonais d'un côté, l'Afrique subsaharienne de l'autre, avec mes parents qui sont amoureux de cette république, amoureux des fondamentaux,
complètement dans cette
inclusion. Lorsqu'on parle d'assimilation, après, on va vous traiter de traître, etc., etc. Le sujet n'a pas été pris en compte par la gauche et c'est bien dommage parce qu'au pays des droits de l'homme,
mais
justement,
quota ou pas quota.
J'y viens. Citoyenneté, ça veut dire droit et devoir. Voilà. Et alors, pour les quotas, il faut faire avec le réel, avec la raison, avec la science. Évidemment qu'on ne peut pas accueillir tout le monde. Et en fait, le fait de dire ça
c'est
aujourd'hui.
La France de Rocard.
Exact. Et ben voilà, je suis rocardienne ce matin.
Oui, mais Rocard disait la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais elle doit en prendre sa part. Et tout le monde occulte toujours la deuxième partie de la phrase.
C'est exactement ça. Mais elle doit en prendre sa part. Et effectivement, ensuite, les enfants d'immigrés que nous sommes participeront au rayonnement de la France.
Mais nous prenons notre part. La France n'est pas un pays dont les frontières sont ouvertes aux quatre vents, où tout le monde rentre comme ça. C'est pas vrai. Ça, c'est le fantasme qui a été mis dans la tête des gens par l'extrême droite.
Est-ce qu'on a des chiffres précis ?
Oui, on a des chiffres. Il y a un peu plus de 5 millions d'étrangers en France, dont 4 millions 400 000 immigrés, parce que la différence entre un immigré et un étranger, hein, vous le savez, c'est un immigré, c'est quelqu'un qui est né à l'étranger et qui est sur le sol français. Et on considère que l'immigration illégale représente entre 800 000 et 1 million de personnes, donc loin des fantasmes brandis par l'extrême droite. Mais tout cela ne résulte que d'extrapolation, enfin pas tout cela, pardon. Le premier chiffre que j'ai donné, celui sur les étrangers, ça, ce sont les chiffres de l'INSEE, recoupés par le ministère de l'Intérieur.
Les clandestins, par définition. C'est quand même compliqué de savoir combien.
Oui, alors, en réalité, les spécialistes considèrent qu'il faut regarder le nombre de bénéficiaires de l'aide médicale d'État et le multiplier par un peu plus de 2. Et donc, ça donne à peu près une population de 800 000 à 1 million de personnes, ce qui n'est pas gigantesque. Je voudrais juste rajouter à ce qu'a dit Rachel tout à l'heure, parce que ça aussi, c'est une donnée chiffrée qui est très intéressante, c'est qu'aujourd'hui, contrairement à ce que beaucoup de Français pensent, la principale cause d'immigration vers la France, ce sont les étudiants. C'est pas le regroupement familial qui vient après, ni surtout l'immigration économique, ce sont les étudiants. Il y avait 108 000 étudiants qui sont venus étudier en France en 2022.
Dernier sujet, un peu plus glamour, le Festival de Cannes, malheureusement nous n'y sommes pas. Nous sommes dans ce studio et nous sommes ravis de travailler pour les auditeurs de Radio Classique. Mais nous sommes tous les trois, ainsi que Blumenfeld, Renaud Blanc et toute l'équipe des passionnés de cinéma. Alors nous venons de voir passer, il y a trois semaines, Brad Pitt, pour le film de Damien Chazelle, Babylone. Et puis là, à Cannes, Harrison Ford, Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, des immigrés d'ailleurs, des Italiens, hein, Johnny Depp, et toute une pléiade de stars hollywoodiennes. Est-ce que vous êtes l'un et l'autre? Vous faites partie de ces gens qui sont fascinés? Alors là, on ne parle que des acteurs, on ne parle pas des actrices, c'est un regret, mais est-ce que vous êtes fasciné par ce qu'ils ont produit? Et est-ce que vous avez finalement le sentiment que un Scorsese avec De Niro et DiCaprio, ce sera toujours beaucoup mieux qu'un film français, fut-il excellent?
Non, alors c'est vrai, merci d'avoir souligné les actrices, parce que c'est vrai que cette Jessica Chastain, par exemple, et puis aussi les Denzel Washington et les Morgan Freeman, moi, voilà, je suis assez pas
facile. Là, j'ai parlé de ceux qui étaient venus.
Je sais, j'ai compris. Moi, je trouve que non, alors, c'est vrai qu'un Brad Pitt, par exemple, il est séduisant, certes, mais il a aussi autre chose, il garde sa part de mystère. Vous aviez reçu Frédéric Mitterrand qui parlait justement de cette magie mystérieuse. C'est toujours fascinant, c'est classe. En plus, il a beaucoup d'intelligence, d'autodérision, il aime l'art. Après, ce que je regrette un peu, notamment dans nos créations françaises, c'est qu'on mette pas assez en avant justement l'esthétique, la beauté, d'aller vers des chemins de traverse qui nous emportent, ce qu'arrivent à faire les Américains. Ils nous emportent dans des univers. Babylone, ça nous emmène dans un univers, et j'aimerais bien que la création française reprenne du poil de la bête pour pouvoir faire ce voyage.
Ils ont évidemment des moyens que nous n'avons pas. Comme disait Malraux, le cinéma est un art, mais c'est aussi une industrie. Et donc, l'industrie hollywoodienne américaine part avec des points d'avance, parce que son seul marché intérieur suffit à amortir des productions gigantesques qui ensuite peuvent être distribuées dans le monde à moindre coût.
Un film comme Du Barry, c'est 20 millions d'euros. Et un Scorsese cher, c'est presque 300 millions de dollars. Donc, voilà. On n'est pas du tout dans le même...
Voilà, donc nous ne sommes pas à la même échelle. Néanmoins, n'ayons évidemment pas honte du cinéma français qui a eu des périodes absolument formidables. La nouvelle vague a inspiré le cinéma américain à bien des égards. Et donc, néanmoins, on a tous, parce que c'est aussi le modèle culturel, les modèles culturels qui se mélangent, et donc on a tous la fascination du grand cinéma américain de John Wayne et Kirk Douglas, jusqu'aux acteurs d'aujourd'hui que vous avez cités. Moi, je trouve que je ne suis pas du tout un spécialiste de cinéma, mais j'adore ça comme consommateur, comme spectateur. Je trouve qu'un très grand acteur, c'est quelqu'un qui a une palette très très large, qui va de la comédie burlesque au thriller. Voilà. Et donc, de ce point de vue-là, je trouve que De Niro a un registre absolument incomparable aujourd'hui. Même Pacino, qui est un immense acteur, ne fait pas de comédie burlesque comme sait si bien en faire De Niro. Donc, voilà, je trouve qu'il est quand même, pour moi, plutôt au-dessus du lot. Et j'attends que Leonardo DiCaprio, un jour, fasse une comédie
burlesque. Mais ils l'ont fait un peu dans Once Upon a Time, le film de Tarantino.
Tarantino, c'est un peu de la comédie, mais pas à ce point-là.
Ne jamais oublier que pour les États-Unis, le cinéma, c'est leur soft power.
Bien sûr.
Donc ça veut dire autre chose, c'est une politique réelle.
Merci à tous les deux, il est 8h58 sur l'antenne de Radio Classique. Évidemment, aller au cinéma, et c'est une très bonne chose. Dans les salles, c'est pas mal aussi. Et puis si vous ne pouvez pas aller dans les salles, eh bien allez à VOD si vous avez la chance de pouvoir avoir un certain nombre d'abonnements, mais ça coûte de plus en plus cher et c'est de plus en plus compliqué, notamment quand on vous demande, moi j'adore ça, quand vous allez vers une nouvelle chaîne ou une nouvelle plateforme, le code, quel est le code?
Insupportable.
Mais je ne sais plus si c'est le code Apple, le code machin, enfin c'est un truc.
Bon, en tout cas, moi je suis plus fasciné par Guillaume Durand, je pense.
Ah oui, vous avez raison. Allez. Trêve de flagornerie, 58.